L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.
Jonathan Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et vous êtes sur notre antenne aujourd'hui parce que vous êtes de passage au Mans pour votre dernier ouvrage, Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés. C'est aux éditions Cherche Midi. Alors on va revenir en détail sur ce projet de loi en cours, sur l'aide à mourir, qui a été présenté le 10 avril au Conseil des ministres et qui devrait rentrer à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois de mai. Avant ça, revenons un peu sur cet ouvrage. C'est un livre qui donne toutes les clés pour comprendre les enjeux de la fin de vie et l'accompagnement des personnes en souffrance, comme vous l'expliquez. Jonathan Denis, déjà, quelle est l'intention de cet ouvrage ?
J'ai voulu faire un livre choral qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui s'engagent sur cette question. Parce qu'il n'y a pas que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui s'engage. Vous avez aussi d'autres associations, évidemment, mais vous avez aussi des médecins. Je voulais donner la parole, par exemple, à des médecins qui avaient pu accompagner eux-mêmes des personnes dans le cadre d'euthanasie clandestine. J'ai voulu donner la parole également à des accompagnants, notamment en soins palliatifs. Donner la parole à des juristes et à des philosophes, parce qu'il y a cette question de liberté, de laïcité qui est également questionnée. Donc voilà, c'était un ouvrage collectif qui reprennent évidemment tous les éléments du combat que nous menons pour le droit de mourir dans la dignité, qui permettent d'obtenir les clés sur le débat actuel et qui permettent d'ouvrir derrière la réflexion sur l'entraide et la solidarité qui doivent découler, je l'espère, du vote de la loi prochainement.
Parce que votre engagement pour la question du droit de mourir dans la dignité date d'il y a de nombreuses années maintenant. Est-ce qu'il y a eu plusieurs déclics, plusieurs expériences personnelles qui vous ont changé, qui vous ont donné envie de vous battre à ce sujet, ou même peut-être qui ont changé votre regard sur ce sujet ?
Changer mon regard, non, parce que très tôt, moi, on m'a élevé dans la liberté, qui est une valeur dans ma famille, et la liberté de disposer de son corps, mais la liberté aussi de ses choix. Et la question, finalement, du libre choix en fin de vie, c'est pas quelque chose qui se posait dans ma famille comme étant une opposition. Après, par contre, j'ai été confronté au cas de Vincent Humbert, qui avait mon âge et qui était jeune sapeur-pompier volontaire, qui a eu un très grave accident de voiture, qui l'a rendu tétraplégique, qui l'a rendu aveugle, qui l'a rendu muet. Et Vincent ne communiquait qu'avec son pouce droit. Il avait écrit un livre demandant à Jacques Chirac, alors, qui était président de la République, le droit de mourir. Et j'avais été très touché par son témoignage, très touché par ce qu'il exprimait, très touché par cette demande et ce choix dont il voulait bénéficier, parce que pour lui, la vie n'était devenue que de la survie, parce que pour lui, ses souffrances, qui étaient physiques, qui étaient psychiques, étaient absolument insupportables. Et Jacques Chirac lui avait répondu qu'il ne pouvait absolument rien faire. Et c'est sa maman, Marie Humbert, qui l'a aidé avec le professeur Chaussois. Et j'ai eu l'immense chance et l'immense honneur de pouvoir rencontrer sa maman après et de pouvoir comprendre tout ce qu'elle avait dû endurer et de comprendre le dernier acte d'amour qu'elle avait fait pour son fils. Et je n'ai pas compris à l'époque comment on pouvait encore interdire à des personnes de pouvoir choisir à quel moment ils éteignaient la lumière parce que la vie n'était devenue que de la survie. Et puis plus tard, j'ai eu une expérience personnelle. Mon père avait un cancer généralisé et il avait décidé, dans sa liberté, celle qu'il m'avait enseignée, le moment où il allait partir. Il s'est procuré un médicament. Il l'a pris seul, ça n'a pas eu l'effet escompté. Il s'est retrouvé dans un coma irréversible, transporté à l'hôpital, et il a fallu que le chef de service que je rencontre connaisse mon père, comprenne son choix, et puis en parler avec lui avant, et me dise « bon, on va l'aider ». Et on était en 2008, et quand j'ai dit « c'est quoi, on va l'aider ?», il m'a dit « il va partir en quelques instants », et c'est ce qui s'est passé. Il a été accompagné donc, dans le cadre d'une euthanasie clandestine dans un hôpital, et j'ai attendu que ce médecin décède pour pouvoir en parler, parce qu'il risquait énormément. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse qu'aucun enfant, aucun parent n'ait à connaître le médecin qui soit prêt à le faire dans la clandestinité pour accompagner, et que ça devait être une loi qui protège à la fois les soignants et les soignés.
C'est ce que vous dites souvent effectivement à ce sujet. Vous avez attendu que le médecin décède pour en parler, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour les professionnels de santé encore en 2024. On n'est pas en sécurité lorsqu'on est dans ce métier et qu'on franchit le pas.
Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées aussi avec différentes lois qui vous permettent de pouvoir arrêter les traitements, qui vous permettent de pouvoir être accompagné dans le cadre d'une sédation uniquement si votre pronostic vital est engagé à court terme. Et donc la sédation, c'est quand même ce qu'on appelle le laisser mourir, mais qu'il n'y a jamais eu le courage politique de voter pour qu'il y ait cette possibilité de légalisation d'euthanasie et du suicide assisté. Mais vous avez des soignants qui le font depuis la nuit des temps, et vous avez des soignants qui, dans la clandestinité, en prévenant les familles évidemment, à l'écoute du patient, le font, mais ils risquent d'être radiés, ils risquent la prison. Et pourtant, dans la majorité des cas, quand ils sont traînés devant des tribunaux, ils écopent de sursis, ou alors on considère que c'est de la compassion. on considère que c'est de la fraternité. Et on n'a jamais eu le courage de dire, si les décisions de justice sont rendues ainsi, avec de la clémence, eh bien alors légiférons pour les protéger totalement. Donc aujourd'hui, non, ils ne sont pas encore protégés, et c'est ce qu'ils souhaitent également, c'est pouvoir accompagner dans la légalité, sans être montré du doigt, mais finalement, pas faire différent de l'éthique et de la fraternité qu'ont des médecins belges, qu'ont des médecins luxembourgeois ou espagnols.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Lorsqu'on se penche sur l'écriture et qu'on aborde un sujet si sensible que celui-là, est-ce que les mots et l'écriture peuvent apporter un regard différent sur ce sujet? Qu'est-ce que ça change?
L'écriture, elle est seule. Vous vous retrouvez face à un écran, et c'est comme ça que je commence mon livre d'ailleurs, dans cette solitude, alors que tout ce combat fait que je suis baigné de collectif depuis des années. Et quand on se confronte aux mots, mais moi je me suis confronté aux mots des autres, je me suis dit qu'effectivement on menait un beau combat, et que nous étions des millions et des millions à vouloir cela, et qu'on s'inscrivait parfaitement dans le cadre de la devise républicaine, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. J'ai même ajouté la laïcité, qui pour moi est une valeur fondamentale. Donc les mots ont un sens, et il est important de le rappeler, alors que ce projet de loi est arrivé, qu'il faut savoir assumer les mots, et que quand on assume les mots et quand on nomme très clairement les choses, on avance beaucoup mieux et on permet à chacune et à chacun de comprendre où on va.
Donc on va se pencher d'un peu plus près sur l'actualité maintenant. Le 10 avril, le projet de loi sur l'aide active à mourir a été présenté en Conseil des ministres. Le texte devrait être débattu le 27 mai, à partir du 27 mai au Parlement. L'une des principales innovations de ce texte, c'est l'ouverture pour la première fois d'une aide à mourir, qui prendrait plus ou moins la forme d'un suicide assisté. Le patient devra réunir obligatoirement 5 critères: être âgé d'au moins 18 ans, être atteint d'une affection grave dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, présenter des souffrances physiques ou psychologiques liées à la maladie qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable lorsque le traitement s'arrête. Et il faudra aussi être apte de manifester sa volonté de manière libre et éclairée. Et enfin, il faut obligatoirement résider de façon stable en France. Jonathan Denis, quel est votre regard sur ce projet de loi ?
Il faut reconnaître que c'est une avancée considérable par rapport à tout ce qu'il y avait eu avant, puisqu'il n'y avait rien eu. Donc il faut quand même reconnaître là-dessus que pour la première fois, on a un projet de loi du gouvernement qui peut être voté et qui permet de légaliser, moi j'emploie les mots, le suicide assisté et une exception d'euthanasie, puisque c'est ainsi dans ce texte. Et puis il ne faut pas oublier non plus toute la première partie sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs, où on met quand même plus d'1 milliard nouveau sur la table, on va pouvoir créer ces maisons d'accompagnement, et où enfin on parle de la formation et de ce que moi j'appelle depuis des années l'infusion de la culture palliative, c'est-à-dire de permettre du médecin généraliste au spécialiste de soins palliatifs, d'accompagner et de parler de ces soins-là, et que jamais on oppose les soins palliatifs à l'aide active à mourir, que ce soit bien un continuum de soins, mais que jamais non plus l'aide active à mourir soit un choix par défaut d'accompagnement. Ensuite, il y a de nombreux points qui restent aussi à revoir. On a pris le temps de la discussion. Ça fait 40 ans que la DMD existe, ça fait 40 ans que ce débat est porté. On parlait de Vincent Imbert, c'était il y a plus de 20 ans, mais il y a eu d'autres cas évidemment depuis. Le président a souhaité réunir une nouvelle convention citoyenne, on a pris notre temps, on nous a promis un projet de loi en 2023, on y arrive en 2024, et pour autant, il y a encore des points qui peuvent poser souci. Vous avez parlé du pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Moi j'attends qu'on puisse m'expliquer ce qu'est le moyen terme. Aucun pays au monde, aucun, n'a mis cela dans son texte de loi. Qu'on mette l'incurabilité, oui. Qu'on mette le caractère grave de la maladie. Oui, le caractère grave, le gouvernement le dit, ça veut dire l'engagement du pronostic vital. Pour autant, vous avez des personnes qui n'auraient peut-être pas un pronostic vital engagé à 6 ou à 12 mois et qui auraient ces souffrances insupportables, qui auraient cette incurabilité. Je pense par exemple aux maladies à évolution lente, les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Charcot. Qu'est-ce qu'on va leur répondre ? Qu'il faut qu'ils souffrent encore un peu pour rentrer dans le cadre de la loi ? Qu'il faut qu'ils continuent à partir en Belgique ou en Suisse comme ils le font actuellement ? Non. Moi, je ne le pense pas.
Donc, vous craignez qu'il y ait vraiment un flou autour de ce court ou moyen terme dans la loi et sa définition ?
Le raté de la loi de 2016, c'est quand même le court terme pour la sédation. Il faut quand même rappeler qu'il a fallu 2 ans après le vote de la loi pour que la Haute Autorité de Santé nous dise que le court terme, c'est quelques heures à quelques jours. Donc, qu'est-ce que va nous dire la Haute Autorité de Santé demain ? Le moyen terme, c'est quelques semaines à quelques mois. Je rappelle Vincent Imbert. J'étais reçu il y a quelques jours à Matignon par les conseillers du Premier ministre, je leur ai posé cette question. Est-ce que Vincent Imbert aurait été accompagné dans le cadre de cette loi ? On m'a dit non, parce que son pronostic vital n'était pas engagé à court ou à moyen terme. Avoir voulu faire tout ça pour être incapable de tenir ses promesses et de dire finalement, Marie Humbert, elle devrait toujours aller en prison pour avoir fait ce dernier acte d'amour pour son fils, je trouve ça tout simplement inadmissible.
Alors sur ce que vous disiez au début de votre réponse, qu'avant nous n'avions rien dans la législation, pourquoi selon vous, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, selon vous la loi Claeys-Leonetti n'apporte pas suffisamment de réponses? Parce que pour les gens qui sont opposés à un élargissement de la loi, elle apporte toutes les réponses, elle est juste mal appliquée en France et on manque de moyens là-dessus.
C'est pas une question de manque de moyens ou de ne pas bien appliquer la loi. Il faut quand même rappeler qu'on ne sait pas combien il y a de sédations dans notre pays. Tout simplement parce qu'on n'a pas codifié les choses et qu'on n'a pas une commission de contrôle, une commission d'évaluation qui puisse être faite là-dessus. La sédation profonde est continue jusqu'au décès, donc on altère votre conscience, on va arrêter tous les traitements, l'hydratation artificielle, l'alimentation artificielle, et puis on va attendre que vous mourrez. Alors ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Je rappelle quand même que la première sédation de Vincent Lambert, cette fois-ci, ça a duré plus de 30 jours avant que le tribunal ordonne la reprise des traitements et que la deuxième sédation de Vincent Lambert a duré 9 jours. Alors, on nous parle de court terme. Il faut quand même rappeler que le Conseil d'État a aussi parlé des mourants qui n'en finissent plus de mourir dans le cadre de la sédation. Donc aujourd'hui, la sédation n'est pas suffisante, ne répond pas à tous les cas, évidemment. Et je souhaite que dans cette loi à venir, on puisse également réfléchir à ce qu'est la sédation chez nous. La sédation chez nous, elle n'existe une nouvelle fois dans aucun autre pays au monde. Arrêtons de vouloir inventer des choses qui ne fonctionnent pas. Regardons ce qui fonctionne à l'étranger et sachons le mettre en place chez nous.
Alors, dans ce texte, il y a évidemment le parcours avant ça pour y arriver avec la décision du médecin. Il faudra formuler une demande au médecin. Ce dernier est alors tenu d'informer le malade sur la procédure, sur les autres traitements et dispositifs d'accompagnement possibles, mais également sur la possibilité de renoncer à cette demande. Et donc après ça, pendant 15 jours, le médecin consulte plusieurs professionnels de santé, dont un médecin extérieur qui ne suit pas le malade, mais c'est le premier médecin lui-même qui est le seul décisionnaire. Et en cas de refus, le patient peut contester la décision devant la justice administrative. Jonathan Denis, est-ce que c'est un processus qui va dans le bon sens malgré tout et qui aboutira toujours selon vous, ou bien vous avez l'impression d'assister à un long chemin de croix et sinueux, un peu trompeur finalement?
Je vais être très honnête, aujourd'hui ce qui est mis dans le projet de loi, c'est ce qu'on a aussi poussé et ce que j'ai poussé moi en rencontrant Agnès Firmin-Lebaudeau ou la nouvelle ministre de la Santé Catherine Vautrin. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs d'où on part. On part il y a plus d'un an et demi d'un système du suicide assisté version Oregon aux États-Unis, c'est-à-dire que vous aviez un pronostic vital engagé dans les 6 mois, vous alliez à la pharmacie, vous preniez une pilule, vous rentrez chez vous et vous la preniez ou vous ne la preniez pas seul, absolument seul. Donc aujourd'hui, on a réussi à pousser d'autres choses. Le président de la République parlait d'une collégialité pour que le médecin décide pour une demande d'aide active à mourir. Nous avons très bien expliqué les choses. C'est le médecin qui consent à accompagner, mais le patient qui décide. Et on ne voulait pas que ce soit un parcours du combattant. Qu'un médecin recueille l'avis de la personne, puis recueille l'avis d'un autre médecin, c'est une garantie. On n'a rien inventé. Ça existe dans tous les pays qui ont légalisé l'aide active à mourir. Moi, ça me semble aujourd'hui un parcours qui n'est pas le parcours du combattant. Ensuite, par contre, la clause de conscience des médecins s'applique, c'est-à-dire qu'un médecin qui ne voudrait pas accompagner la personne dans le cadre d'une aide active à mourir devra l'orienter vers un professionnel de santé qui, lui, est prêt à le faire. Il faudra être capable d'accompagner tout le monde. Vous parliez de 15 jours pour rendre un avis. Moi, ça me semble long. Quand vous avez, par exemple, un cancer généralisé, que vous avez un pronostic vital qui est engagé à court terme, je ne voudrais pas que les personnes décèdent dans d'horribles souffrances avant même de pouvoir être accompagnées dans le cadre de l'aide active à mourir.
Comment réussir à avancer dans ce débat sur ce sujet si sensible sans froisser les professionnels de santé et le monde médical, toujours très largement opposé à l'aide active à mourir, contrairement à l'opinion générale en France?
Je ne crois pas que le milieu médical soit majoritairement opposé. On entend majoritairement des opposants. Mais vous savez, ce n'est pas ceux qui parlent le plus fort et qui crient qui ont raison à la fin et qui parlent pour le plus grand nombre. Moi, je rencontre de nombreux médecins de soins palliatifs, et les parlementaires le font également, qui nous expliquent pourquoi il faut faire évoluer la loi. Je rencontre de nombreux médecins qui m'expliquent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore parler parce qu'il y a ce poids de certains de leurs confrères qui parlent plus fort qu'eux, mais qu'ils sont prêts à porter cette évolution de la loi et qu'ils seront prêts à faire cet accompagnement. Après, moi, je suis un homme de dialogue, je respecte absolument tout le monde. Je ne dirai pas aux opposants « vous avez tort ». Ils ont leur certitude, ils ont leur vérité, moi, je n'en ai pas. Et l'ensemble des personnes qui veulent cette loi n'ont ni vérité ni certitude. Ils veulent juste avoir le champ des possibles ouvert devant eux et ce libre choix. Et je pense qu'il y a de nombreux médecins aujourd'hui qui se disent contre, qui feront comme nos amis belges et qui deviendront favorables par la suite et qui accompagneront également, tout comme je pense qu'il y a des politiques qui voteront contre et qui se feront très certainement accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir. On l'a vécu par le passé.
Justement, vous pensez que les députés, c'est entre leurs mains. Ce texte peut aller plus loin aujourd'hui. D'un côté, on a la majorité, mais surtout la NUPES, qui est favorable à un élargissement et qu'il faut aller plus loin. Ou alors, vous craignez que le Parlement et la décision finale penchent plutôt du côté de la droite, voire de l'extrême droite là-dessus?
Je pense que c'est une question transpartisane. Tous les groupes parlementaires ont dit qu'ils laisseraient une liberté de vote. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place, qui réunit tous les groupes parlementaires. Moi, je vais être auditionné, on va être plusieurs à être auditionnés. Ensuite, les débats, vous l'avez rappelé, auront lieu à partir du 27 mai à l'Assemblée nationale. Je pense que dans chaque groupe, vous aurez des personnes pour et des personnes contre. Maintenant, je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte et puis l'amender, l'améliorer, parce qu'il y a des points à revoir. Je fais confiance aux parlementaires pour écouter leurs concitoyens et surtout les écouter grandement quand ils reviendront dans leur circonscription et qu'ils se feront engueuler s'ils n'osent pas aujourd'hui assumer les choses et entrer dans ce chemin à tracer pour un respect de toutes les consciences.
Parce que ce retard par rapport à nos pays voisins, on l'explique par le manque de courage d'une partie de la classe politique ou il y a d'autres sujets à ça finalement ?
Je ne fais pas de politique politicienne, mais je reconnais quand même à Emmanuel Macron le courage aujourd'hui de faire ce projet de loi. Il faut quand même aussi reconnaître que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que d'autres n'ont pas eu ce courage. Quand vous êtes contre et que vous n'avez pas ce courage, ça se comprend. Quand vous êtes pour et que vous n'avez pas eu le courage, ça s'appelle une trahison. Et je rappelle que François Hollande, c'est une trahison. C'est un engagement de légaliser l'aide active à mourir, ça donne la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je me rappelle même au moment du vote de la loi, de certains parlementaires favorables aux propositions de la DMD qui ont quitté l'hémicycle au moment où il fallait voter un amendement légalisant l'aide active à mourir. Donc ce manque de courage politique, c'est la raison principale pour laquelle nous en sommes ici. Et ensuite, vous avez un poids incroyable des représentants religieux, et on le voit encore dans ce débat où la laïcité a été mise à mal totalement. Et puis je vous parlais tout à l'heure de ces grandes voies médicales. On a toujours voulu confier les choses à des médecins en oubliant que le décisionnaire, c'est le citoyen. C'est celui qui est dans le lit, pas ceux qui sont autour du lit.
Jonathan Denis, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et vous publiez donc votre ouvrage « Mourir dans la dignité, plaidoyer pour la dernière des libertés ». C'est aux éditions Cherche Midi.
L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.